Bonjour, je m'appelle David Nussbaumer, je suis conseiller pastoral à l'église ici et je suis aussi enseignant en SVT, en biologie. Alors ce matin, j'aimerais vous partager un thème, le blasphème. C'est quoi un blasphème? Alors j'ai cherché dans Wikipédia. À l'origine, la notion de blasphème désigne le fait de parler mal de quelqu'un, injurier, calomnier. Cette notion prend progressivement un sens plus restreint pour ne plus concerner que l'injure appliquée aux faits religieux. Ainsi, le dictionnaire Larousse définit le blasphème comme une parole ou discours qui outrage la divinité, la religion, ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Alors, si vous avez bien compris, nous, on ne va pas regarder ce que c'est devenu, mais ce que c'était au départ, à l'époque où ça a été utilisé. Et dans le Nouveau Testament, ce mot... Le mot original grec est présent à peu près 35 fois. Alors j'ai comparé par exemple au mot sanctifié, sanctification, il est présent à peu près 20 fois. Alors on vous prêche régulièrement la sanctification, mais on ne parle pas trop de blasphème. Alors ce matin j'aimerais vous inviter à voir ce que c'est. Et on va commencer par l'Ancien Testament. Donc, le premier point, c'est le roi David permet aux ennemis de blasphémer Dieu. On va lire ensemble un texte dans 2 Samuel, au chapitre 12, les versets 7 à 14. C'est le récit de l'intervention du prophète Nathan après que le roi David ait pris la femme d'un de ses officiers et est fait assassiner ce dernier. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. » En fait, Nathan avait une parabole où il avait parlé de quelqu'un qui avait une brebis dont il s'occupait et un riche à côté qui en avait plein. Et puis un jour, quand il avait des invités, le riche a pris la brebis du pauvre et l'a donné à manger à ses invités. Et alors David se met en colère, il dit « Mais c'est quoi ce type? Il mérite la mort, il va rendre 4 brebis pour ce qu'il a fait. » Et donc Nathan lui dit « C'est toi. » Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. » Donc Saül, c'était l'ancien roi qui cherchait à le tuer. « Je t'ai donné... la famille de ton maître, donc la famille de Saül, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme. Et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Le péché de David est d'abord un péché d'ingratitude face à la grâce de Dieu. Dieu lui avait tout donné, la royauté, la protection, les richesses. Et pourtant, David a agi comme s'il n'en avait pas assez, en volant la seule chose de valeur qu'Urie possédait. Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte. Les ennemis de Dieu ont pu dire, vous voyez, son Dieu ne lui suffit pas. Son Dieu n'est pas capable de le satisfaire, de le rendre heureux. Ce que son Dieu lui donne, ben, c'est méprisable, puisque pour lui, ça ne vaut rien. Si l'Éternel, son Dieu, était généreux et puissant et bon avec lui, il n'aurait pas besoin de piquer les femmes de ses sujets. Dieu avait promis de lui faire une maison, de lui donner un descendant qui construirait un temple à l'Éternel et qui régnerait pour toujours. Eh bien, cela ne semble pas intéresser ce roi David. Il a d'autres projets avec les femmes de ses officiers. En méprisant ce que Dieu lui a donné, les projets que Dieu avait prononcés sur lui, David a donné l'occasion aux ennemis de Dieu de se moquer. Et là, je me pose des questions. Je me dis, oups, moi aussi j'ai reçu la grâce de Dieu. Je vais y arriver avec le micro. Dieu m'a donné une famille, une église, un travail. Et tout ça, je vais considérer comme si c'était rien et puis aller commettre l'adultère, aller voler, aller faire quelque chose qui finalement va permettre à ceux qui se moquent de Dieu d'avoir des raisons de se moquer de Dieu. Et oui, ils peuvent en trouver, malheureusement, des raisons de se moquer de Dieu. Et là, je me dis, oh là, il faut que je sois plus sérieux. Il faut que je fasse attention à ce que Dieu m'a donné, que je le prenne plus à cœur. Pour David, il y a eu des conséquences. La première, c'est que l'épée ne s'éloignera plus de son foyer. Et cette conséquence du meurtre d'Urie, c'est que dans la famille de David, il va y avoir des meurtres. Il va y avoir des personnes tuées. Et cela va continuer dans cette famille royale, encore au fil des siècles. La conséquence de l'adultère, c'est la destruction d'une famille, celle d'Urie, mais la famille de David aussi va être détruite. La conséquence des péchés secrets, ces péchés seront rendus publics avec toute la perte de confiance et la perte d'honneur qui seront attachés. La conséquence du mépris de Dieu, ce qui a fait blasphémer les ennemis de Dieu, c'est la mort. Mais c'est la mort du Fils. C'est lui qui meurt à cause de cela. Et on peut se dire, oui, mais c'est... Oh là là, c'est terrible, tout ce qui se passe à cause du péché de David. Mais quelque part, c'est quelque chose de prophétique. Ce que Dieu a annoncé à David, c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Finalement, c'était une annonce de ce que le péché entraîne. Le péché entraîne, par exemple, l'adultère, la destruction d'une famille, le meurtre, la perte d'une vie. Mais tout cela, c'est finalement Jésus qui va le porter. Jésus, il est le Fils qui meurt à cause du péché des autres. Il est celui qui est frappé par l'épée, par la lance. En fait, c'était le symbole d'une mort violente. Il est mort publiquement dans le déshonneur pour tous nos péchés secrets. Il est celui qui a été abandonné du Père sur la croix où il agonisait parce qu'il portait nos péchés, les péchés qui détruisent nos familles, pour créer une nouvelle famille en lui. Oui, Jésus accomplit la loi, il accomplit les prophéties. Et quand il meurt, il dit « Tout est accompli ». C'est intéressant aussi de voir que David va lutter dans la prière et le jeûne pour sauver ce fils malade. Et quelque part, il est en train de vivre dans sa chair, de mesurer le prix que le Père Céleste paye en sacrifiant son fils unique Jésus. Oui, le nom de Dieu a été bafoué par les actions de David. Et il y a deux chemins qui semblent possibles maintenant pour redonner la gloire à Dieu. La première, la destruction des pécheurs. Annihilation, on brûle tout et on recommence. D'ailleurs, Dieu l'avait proposé à Moïse. Il a dit, allez, on brûle tout, on recommence avec toi. Et Moïse dit, mais non Seigneur, sinon on va croire que tu n'es pas capable de faire autrement. Oui, l'autre possibilité, c'est la transformation des pécheurs. Et Dieu a choisi cette deuxième option. Il a choisi de donner un nouveau cœur à ce peuple qui se rebellait toujours contre lui. Un cœur où les lois sont gravées dedans. Et il l'a fait par Jésus. Tout à l'heure, quand Jean-Daniel nous a partagé toutes ces horreurs, dans mon cœur, j'ai choisi la première solution. On brûle tout. On envoie une grosse bombe et on extermine ces personnes qui font des choses aussi horribles. Mais Dieu ne choisit pas ce chemin. Il choisit de les transformer. Jésus, qui est venu pour nous sauver, pour nous transformer, pour payer pour tous ces péchés que nous avons commis et qui font que le nom de Dieu est bafoué, eh bien lui-même a été appelé un blasphémateur. Il est venu pour éclairer l'humanité, manifester la gloire de Dieu, du Dieu qui nous aime, et quand il est là, on l'accuse de blasphémer, d'être quelqu'un qui injurie Dieu. 9 fois dans les évangiles, Jésus est accusé d'être un blasphémateur. Et on trouve 2 raisons. Premièrement, quand Jésus pardonne les péchés. Dans Marc 2, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Pour eux, il était en train de voler quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Deuxièmement, on l'accuse de blasphème parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Par exemple, dans un de ses discours au peuple, Jésus reprit dans Jean 10, Jésus reprit et leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Oui, les gens avaient commencé à ramasser des pierres pour les jeter sur Jésus. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être abolie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Et c'est exactement pour la même raison que lors de son jugement par les Juifs, Jésus est condamné à mort. Dans Matthieu 26, « Je t'adjure, dit le grand prêtre, par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Et ensuite, ils le remettent aux Romains. Et puis, là, ils disent, « Oui, il a voulu être roi. Et nous, il n'y a que César qui est le roi. » Et donc, les Romains vont le crucifier sous la pression du peuple. Mais pour les Juifs, il est mort parce qu'il était celui qui a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Il est mort comme il l'a annoncé à ses disciples. Et alors qu'il est cloué sur la croix, les passants l'insultent, et le mot insulte, c'est la même chose que blasphémer, c'est la même racine. Donc les passants blasphèment en secouant la tête, « Eh, toi qui détruis le temple et qui le reconstruit en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Hein ? En fait, tu es incapable. Tu dis que tu sers Dieu, mais Dieu, il ne fait rien pour toi. Les prêtres aussi viennent l'insulter, et même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultent aussi. Et le terme « insulte » est traduit par « blasphème » et des fois par d'autres mots aussi, mais qui sont synonymes. Alors, quelle est la réponse de Jésus à tous ces gens qui l'insultent? Première solution, on les brûle tous. Pas du tout. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une des 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Dans Marc 3, Jésus disait, « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'il disait « un esprit impur est en lui ». Oui, tous les péchés, tous les blasphèmes peuvent être pardonnés. Alors, je vais vous montrer un des blasphèmes qu'on a conservé. Regardez voir, ça a été trouvé dans le complexe du palais de l'empereur à Rome. C'est sur un revêtement en plâtre d'un des murs. On le date à peu près de la fin du IIe siècle. Alors, on va le voir en nettoyant un petit peu sur l'image suivante. Voilà, donc on voit quelqu'un avec une tête d'âne sur une croix et un texte gribouillé. Donc c'est un graffiti. Et sur ce graffiti, on va le mettre la traduction en français. Alexamenos vénère son Dieu. On se moque d'Alexamenos, qui est chrétien, et pour bien dire que voilà, les chrétiens, c'est des idiots. D'ailleurs, j'ai entendu ça encore très récemment. On met une tête d'âne à la place du Christ. Alors, c'était courant à l'époque de mettre des têtes d'âne pour les Juifs, et comme les chrétiens, au début, les premiers siècles étaient considérés comme étant une particularité juive. Voilà, donc pour se moquer, cette moquerie, c'est devenu quelque chose d'incroyable pour les historiens, parce que c'est la première fois qu'une croix est associée au christianisme. Avant, ils avaient des poissons, et là, on a une croix. En plus, pour les historiens, ça veut dire que pour Alexaménos, il croyait en un Dieu qui a été crucifié. Il dit, il adore son Dieu. Donc finalement, ce qui était une moquerie est devenu maintenant une preuve de la présence du christianisme à Rome à cette époque. Et ça, Dieu peut le pardonner, hein. Et c'est pour ça aussi que nous, chrétiens, on n'est pas très sensibles aux blasphémateurs. Quand une revue met des dessins qui se moquent de Dieu, de Jésus, bon, ben, on n'est pas du tout content, mais bon, c'est tout, quoi. Hein, je veux dire, on peut le dire, mais on ne va pas faire des manifs, on ne va pas brûler la maison d'édition ou avoir des actes de violence. Parce que Jésus, il a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ce que nous pouvons faire, c'est de prier. Prier pour ceux qui blasphèment dans l'attente que Dieu les éclaire un jour. D'ailleurs, je connais un homme qui était un blasphémateur. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Oui, c'est qui ? C'est Paul, hein, qui est devenu apôtre. Dieu pardonne les blasphèmes. Sauf que dans ce que j'ai lu, vous avez quand même noté qu'il y a quelque chose qui n'est pas pardonnable et qui conduit à la mort. Alors on va terminer en parlant de ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Dans Matthieu 12, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. » Voilà un texte vraiment intéressant. Et déjà dans le texte que j'avais lu tout à l'heure, Jésus avait dit aux spécialistes de la loi juive qu'ils devaient faire attention de ne pas se perdre définitivement en disant « Il a en lui un démon, un Belzébuth par lequel il fait des miracles et chasse des démons. » Ici aussi, il prévient ses auditeurs de ne pas parler contre le Saint-Esprit en disant « Si le fruit est bon, ne dites pas que l'arbre est mauvais. » Alors qu'est-ce que ça signifie ? Le Saint-Esprit, il ne nous parle pas de voix audible, il parle dans notre cœur. Dans notre cœur, il révèle qui est Jésus, il révèle la vérité de Dieu. Il nous amène à la conclusion que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui sauve du mal, qui nous sauve de nous-mêmes. Et si nous rejetons cette vérité, eh bien Dieu ne peut pas nous sauver. Il ne peut pas nous sauver contre nous-mêmes. Il respecte notre choix. Le péché contre le Saint-Esprit, ce ne sont pas des paroles que nous avons dites. C'est notre cœur qui s'est fermé à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, qui ne veut pas de cette vérité, la vérité de Dieu. Ce même principe est exprimé aussi dans la lettre aux Hébreux, où il est appliqué cette fois-ci à des personnes qui ont rejeté la foi après y avoir adhéré, qui rejettent le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur. Par exemple, dans Hébreux 10, après avoir dit que dans la loi de Moïse, quelqu'un qui a désobéi à la loi peut être mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins, combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est chrétien et qui a commis un péché. Sinon, je ne serais plus là. C'est quelqu'un qui décide, pour une raison, pour être lui-même le chef et faire ce que lui, il veut, plutôt que de se soumettre à Dieu, ça c'est mon interprétation, oui, de rejeter, de fouler au pied, dire voilà, ben non, moi je veux faire ma vie comme moi je veux, Dieu, basta, au revoir, je ne veux pas te suivre. Le péché contre le Saint-Esprit a été un sujet d'étude pour les théologiens chrétiens. Ils sont beaucoup intéressés à ce thème. Alors j'ai demandé à l'ordinateur de me faire une synthèse des chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes. Qu'est-ce que ça donne ? Alors en résumé, pour les catholiques orthodoxes et la plupart des protestants, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas principalement une parole prononcée, mais un refus délibéré et persistant de la vérité, de la grâce et du pardon offert par Dieu. Les religions chrétiennes s'accordent généralement sur plusieurs points. Ce n'est pas simplement une parole irréfléchie ou un juron. Ce n'est pas un doute passager ni une crise de foi. Il implique un rejet conscient, grave et persistant de l'œuvre de salut de Dieu. Une personne qui s'inquiète sincèrement d'avoir commis ce péché est généralement considérée comme montrant encore une ouverture à l'action de l'Esprit, ce qui est l'inverse de l'endurcissement total décrit dans les évangiles. Donc si vous avez peur d'avoir commis ce péché, vous êtes clair que vous ne l'avez pas commis. Alors mon papa, à qui j'ai parlé de mon message, m'a dit « David, c'est important de dire que ce sont des personnes qui refusent la grâce jusqu'à la mort. » D'ailleurs, c'est ce qu'a dit saint Augustin. Il a dit que ce sont des gens qui refusent la grâce jusqu'à la mort. Alors moi, il y a un texte qui m'aide beaucoup sur ce sujet. C'est un texte qui me fortifie, qui m'avertit et qui me rassure. On va regarder dans 2 Timothée 2, verset 11, jusqu'au verset 13, on va l'afficher. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ça me fortifie parce que la volonté de Dieu, c'est de nous sauver, c'est pas de nous perdre. Ok, c'est vraiment son but. Il a choisi ce chemin, non pas de nous anéantir, mais de nous donner la possibilité d'être transformés, d'être sauvés. Ça m'avertit aussi, parce que Dieu ne me sauvera pas contre moi-même. Si moi je le renie, il respectera mon choix. Et puis ça me rassure, parce que si je suis infidèle, si je fais des fois n'importe quoi, si je commets des fautes, lui, il reste fidèle. Il m'appellera toujours à la repentance et il pardonnera mes fautes. Parce qu'il est le sauveur. Voilà. En conclusion, quelles applications pouvons-nous retenir de ce thème ? Le premier, bien sûr, c'est de ne pas mépriser sa grâce, de ne pas donner à ceux qui veulent se moquer de Dieu l'occasion de le faire. Ah, David, ah oui, il est chrétien, mais quand il pète un plomb à la préfecture et qu'il dit n'importe quoi, c'est pas ça, hein. Comme Jésus, apprenons à pardonner aux blasphémateurs. Ne rentrons pas dans la colère, mais plutôt, oui, dans la prière et dans l'espérance que Dieu accordera la repentance. Une autre application, ne rejetons pas le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, mais recevons l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, il cite... Il a cette expression, ceux qui vont dans la perdition parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ont préféré suivre le mensonge. Ils sont dans ce que nous appelons le blasphème contre le Saint-Esprit. Et puis, je vais vous donner une autre piste pour finir. Qu'est-ce que c'est l'inverse du blasphème ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce que dire aux gens « il ne faut pas blasphémer », ce n'est pas ce que dit la Bible. Hein. Elle dit quoi ? Elle dit « il faut glorifier Dieu hein ». Il faut glorifier Dieu. Donner gloire à Dieu par Jésus-Christ. Et dans ma lecture quotidienne, je suis tombé sur 2 Thessaloniciens, versets 11 et 12. Alors, on va les afficher. Et puis, quand je l'ai lu, j'ai dit, ouais, mais c'est ça que Dieu veut que je fasse. Donc, c'est Paul qui prie pour les Thessaloniciens. Il dit, c'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, par son Saint-Esprit, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, ce que je vous encourage, c'est de vous focaliser sur ça. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous le glorifions. Et il nous donne la puissance de le faire par son Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour Jésus qui nous sauve de nos péchés. Merci, Seigneur, aussi, parce que par ton esprit, Jésus vit en nous et tu nous donnes la force de te suivre. Seigneur, oui, que cette semaine, nous puissions glorifier ton nom et que ceux qui le blasphèment puissent, oui, se rendre compte que tu es le vrai Dieu. Au nom de Jésus. Amen.